mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. On a un week-end de sport complètement dingue entre donc la finale du tennis sur Melbourne à partir de 9h30 où Federer va peut-être remporter un 14e tournoi du Grand Chelem avec l'annonce, avec aussi l'arrivée dans l'après-midi annoncée de Michel Desjoyeaux du côté des Sables d'Olonne. En attendant la grande finale du hand hein, où l'équipe de France va essayer à Zagreb contre la Croatie et eh bien de décrocher un troisième titre de champion du monde. Et puis en plus c'est pas fini ce soir, il y a le derby du Rhône-Alpes, Lyon-Saint-Etienne, et la grande finale du Super Bowl dans la nuit. Et bien, vous voyez, un week-end de sport complètement fou. On va l'accompagner avec nos invités ici présents ce matin, avec qui on va parler de sport automobile, parce que la saison des rallyes a aussi commencé. Donc, ce sont des fidèles, des habitués. Pierre Buret. Pierre, bonjour.
Bonjour.
Venu tout droit de Pont-Évrard. Combien de saisons de sport auto ?
Oh, la 23e, 24e.
24e, un quart de siècle.
Hein. En voiture, simplement, mais voilà, sinon, c'est depuis 1972 sur divers engins.
Alors je crois que la passion elle est venue en allant à Montlhéry, hein, cet autodrome malheureusement aujourd'hui complètement délaissé.
Bah, cet autodrome délaissé, pas tout à fait, parce qu'après une grande période d'inactivité, oui, on sent on pourrait dire un frémissement un petit peu, et la direction de l'UTAC qui est propriétaire, oui, de, enfin gestionnaire de l'autodrome, puisque c'est un matériel d'État, est en train de s'ouvrir un petit peu à un certain renouveau, donc on peut en parler un peu.
Enfin, mais après, donc ça veut dire que ça va repartir, bah, tant mieux.
Repartir, ça n'est pas le mot, mais certaines choses vont se faire.
Bon, on cherche un grand prix de Formule 1 en France, pourquoi pas Montlhéry ? Revue et corrigée. Améliorée,
oui, ça
pas.
Ne me paraît pas possible.
Ah bon, c'est dommage.
Je m'en expliquerai plus tard.
D'accord, Pierre. Ok, et puis Philippe Bauer aussi avec nous. Bonjour,
oui,
Philippe.
Bonjour.
Hein, lui aussi, l'invité depuis 2-3 saisons.
Oui, c'est
donc
vrai.
On va parler effectivement de votre passion. Philippe, ça fait combien de temps ?
Oh bah moi, réellement, j'ai repris il y a 3-4 saisons, pas plus. Oui. Bon, ça a toujours été une passion, même quand j'étais plus jeune.
Comment c'est venu, pareil, en accompagnant papa sur au bord
papa,
du circuit,
non, en accompagnant, par exemple, Pierre aussi.
Voilà.
Ouais, c'est lui qui m'a vacciné, là. Et puis, bon, on a eu l'opportunité avec des collègues, et puis voilà, quoi. Puis maintenant, bon, on a du mal à s'en passer.
Donc, ça sera naturellement le menu essentiel de cette émission, hein, le sport auto, de ce riche dimanche, donc, en tout cas, d'actualité sportive. Et puis, on retrouvera Tribune Foot avec la section foot de Buc. Et on aura presque un futur papa qui sera notre invité, puisqu'il va être papa d'ici quelques heures. On aura l'occasion d'en parler dans Tribune Foot. Que des bonnes nouvelles ce matin. Alors, messieurs, la saison. Comment d'abord on peut tirer le bilan de l'année 2008, Pierre ?
Alors, l'année 2008, en ce qui me concerne, bon, on peut faire une séparation entre les courses oui, faites par Philippe, mais pour mon compte personnel, donc j'ai roulé en monoplace, comme depuis 23 ans. Alors, dans deux catégories, en Formule Ford oui, 1600 et en Formule Ford 1800. Donc, en Formule Ford 1600, enfin, je passe un peu sur les courses, on va pas... Mais donc, bon, j'ai couru à Francorchamps, à Hockenheim.
Que des circuits prestigieux et célèbres, quand même.
À Charade, à Dijon, enfin voilà. Ouais. Et donc toujours dans une ambiance plutôt historique. C'est un peu l'orientation que je me suis donné depuis quelques années, une sorte de retour aux sources, finalement. Et puis j'ai roulé à Lédenon, donc près de Nîmes, en fin de saison, pour une course sur une monoplace 1800, à ce moment-là plus moderne, dans le cadre du renouveau d'un championnat de Formule Ford Z-Tech, qui sont des voitures plus puissantes, un peu plus modernes, mais relativement classiques, puisque les courses se sont arrêtées aux alentours des années 2000 en France.
Pourquoi la Formule Ford, Pierre ?
La Formule Ford, parce que ça, c'était bon, une formule au démarrage vraiment intéressante au niveau financier, au niveau de l'entretien, et bon, qui paraît,
accessible à
accessible
tout le monde,
à tout
c'est
monde, voilà. Démocratique, c'est le mot que je cherchais. Et quand la Formule Ford est arrivée en France en 1984, je me suis bien aperçu que c'était la formule qui me convenait. Ayant toujours voulu rouler en monoplace, en circuit. Alors évidemment, on peut rouler sur des berlines, sur tout un tas de voitures, mais en monoplace, c'était une formule abordable.
Donc, il y a combien d'épreuves par an ? C'est un championnat, hein, type Formule 1, c'est ça ?
Oui, hein, oui, voilà. Il y a 10, 12
épreuves par an.
Non, pas tant. je dirais 8 ou 9 épreuves dans le championnat Formule Ford Kent. Et c'est un championnat qui est très, très vivace, on peut dire, puisqu'il y a les voitures historiques. Alors, il y a quasiment 60 voitures Formule Ford qui roulent dans les meetings de course. 30 voitures, disons, classiques et 30 voitures complètement historiques, c'est-à-dire antérieures à 1981.
D'accord.
Et donc, ce sont de très belles courses.
Donc, naturellement, ça dure sur une saison.
On ça dure sur
points.
Voilà, voilà. Et donc là, et c'est vrai que les mois de décembre, janvier sont après les mois des remises des prix. Et notamment, à l'occasion de Rétromobile vendredi prochain, il y aura la remise des prix FFSA pour toute la série VH. Parce que la FFSA a structuré un peu ces courses qui avant se déroulaient d'une manière relativement amateur, et donc là il y a ce qu'on appelle la série VH où tous les types de voitures historiques concourent. Donc il y a la Formule Ford, la Formule 3 classique, les formules de berline, les Maximil, enfin tout, voilà.
Alors la saison elle dure de quand à quand? Ça commence au mois de mars?
Ça commence avril à novembre.
Oui,
fin octobre.
D'accord.
Avril à fin octobre.
Avec donc des week-ends qui sont complètement bloqués. Vous partez combien de temps avant
Nous partons de plus en plus tôt, finalement.
Ah ouais.
Oui, d'une part, en raison du gonflement des plateaux, il y a de plus en plus de séries. Cette série VH sont des courses relativement abordables, comme je disais avant. Et donc, beaucoup de gens veulent participer et il faut être sur place quasiment le jeudi.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça, c'est une des contraintes du sport automobile. Si on veut bien figurer, il faut être allé 2-3 jours avant sur le lieu. Quoi. On ne peut pas se permettre d'arriver comme ça le dimanche matin à la fraîche.
Ça, c'est un peu terminé. C'était comme ça avant, mais non, c'est fini.
Vous avez un circuit que vous préférez plus qu'un autre?
Alors avant, c'était bien sûr le circuit de Montlhéry.
Oui, oui, oui.
Et maintenant, un de mes circuits favoris est tout de même le Bugatti.
Oui, au Mans.
Et voilà, au Mans.
Bah,
c'est quand même un endroit mythique. Et puis, c'est prêt. Et c'est un circuit intéressant au niveau technique.
Est-ce qu'on arrive, après tant d'années de course, comme c'est votre cas, encore à découvrir un circuit? Par exemple, le Mans, vous le connaissez les yeux fermés, ou chaque année, vous dites, tiens, il y a encore une facette du circuit que je ne connaissais pas?
Bon, on peut peut-être pas dire tout à fait comme ça, mais lorsqu'on fait des tours, et Philippe qui est là pourra confirmer, je pense, il suffit qu'on freine 50 cm plus tard dans un virage, et le virage n'est plus le même.
Ah oui.
Voilà. Et donc on essaie toujours de s'améliorer, et finalement, dans tous les virages, ça change, ça n'est jamais...
C'est en fonction des circonstances de course.
Voilà, c'est en fonction des circonstances de course, de la vitesse, des réactions de la voiture, et ça n'est quand même jamais la même chose.
Bien sûr.
Voilà.
Heureusement, d'ailleurs.
Heureusement, ben oui.
C'est ce qui évite la monotonie.
Mais.
Et puis, c'est ce qui évite aussi d'être un peu trop sûr de soi, quoi. Parce que le risque, c'est ça aussi, de croire qu'on connaît le circuit par cœur et qu'il ne peut rien nous arriver.
Oui, mais quand on commence à être sûr de soi, les événements les lois de la physique nous rappellent à l'ordre très rapidement.
C'est un peu comme sur la route, quoi, de tous les jours.
Faut
être vigilant.
Oui, c'est différent quand même, c'est différent.
Alors, vous arrivez le jeudi. Il y a les reconnaissances le vendredi, ça
oui,
se passe comment, le samedi, des essais?
Il y a des essais libres, les essais qualificatifs, les courses, tout ce que, comme dans toute épreuve automobile. Voilà.
Alors, vous êtes comment avant une course, mentalement? Serein, avec le temps, finalement.
Oui, voilà.
Bon, voilà.
Et puis,
Les
enjeux sont un petit peu différents maintenant. Quand j'ai commencé dans les années 80, puisque j'ai commencé donc vraiment la compétition à haut niveau en 1986, il y avait de l'argent à gagner dans les courses.
Oui.
Et ça changeait quand même beaucoup de choses. Et j'ai vu certains départs de courses où notamment par exemple à Montlhéry, où on sait que c'était quand même assez dangereux, c'était un peu tendu. Maintenant, les gens prennent ça avec plus de philosophie. Ah ouais. C'est devenu plus un sport de gentleman et d'amateur. Que...
Ça veut dire, il n'y a que des vétérans au niveau âge ou on peut aussi avoir des jeunes de 20, 25 ans qui dans vos catégories?
Dans ces catégories historiques, il y a absolument tous les âges. Il y a peut-être moins de jeunes que de gens un peu plus âgés qui forcément ont plus les moyens financiers pour s'exprimer. Mais enfin, c'est très varié. Voilà.
Donc la crainte, c'est la casse avant la course.
C'est toujours le petit pépin qui bien souvent est pour une pièce de rien et qui va tout arrêter. Mais globalement, notre fiabilité qui est relativement légendaire est assez bonne et ça s'est encore vérifié cette saison.
Oui, puis il n'est pas là ce matin, on l'avait eu avec nous au mois de décembre pour la grosse rétro sport, mais Lionel, il fait des miracles.
Voilà,
c'est déjà arrivé. Hein.
C'est déjà arrivé. Oui.
Ça, c'est la hantise du pilote automobile, quoi, d'être en panne juste avant le départ. Quoi.
Ben ça, c'est le paramètre dont il faut tenir compte et qui est important dans la course automobile. Et ça, sans une personne vraiment ultra compétente et puis avec de l'expérience, ben on ne peut rien. Et on pense toujours que le sport automobile est un sport individuel et c'est complètement faux. C'est un sport d'équipe à part entière.
Oui, tous les rouages sont importants.
Ah bah, bien sûr, absolument.
Ouais, un bon mécano, c'est un peu comme la radio. Hein. Faut les techniciens, faut voilà.
Ah non, mais c'est une équipe et sans seul, on ne peut rien. Voilà.
Alors, votre année 2008, quelle est la course que vous avez le mieux réussi? Et est-ce qu'il y a des regrets sur cette saison?
Non, je n'ai aucun regret. J'ai, même en roulant assez peu, réussi à faire un classement dans ma catégorie qui sont les pré-87, c'est-à-dire les voitures construites avant 1987, puisqu'en Formule Ford historique, j'ai un modèle 84. Et donc là, finalement, la course que j'ai le plus appréciée, je crois, c'est celle sur le circuit de Charade à Clermont-Ferrand. C'est vraiment un circuit naturel et avec des grosses difficultés, du danger encore. Et ça a été une bonne course, une course intéressante.
Il n'y a que des Français dans ces courses ou il y a aussi des Européens?
Non, c'est plutôt Français. C'est plutôt français. Il y a un ou deux Suisses, parfois. Il peut y avoir un ou deux Belges, mais généralement, c'est franco-français.
Alors Pierre, on gagne de l'argent. Vous parliez de l'argent, on en gagnait beaucoup avant. Aujourd'hui, on en gagne beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on gagne quand on remporte un Grand Prix et puis même le classement final?
Bon, avant, on en gagnait pas beaucoup, mais disons que certains pilotes dans ma catégorie arrivaient presque à courir gratuitement. Bon, en ce qui me concerne, on peut dire qu'il y a quelques années, ça allait bien, ça couvrait bien nos frais. Et puis là, maintenant, on gagne une poignée de main, une coupe, et puis c'est tout. Tout ça est complètement terminé.
Et pour un jeune, c'est l'antichambre pour une bonne carrière? Pour un jeune qui lancerait comme vous la Formule Ford, est-ce que ça peut être l'antichambre pour une carrière à un niveau plus élevé?
Ben, je crois que les gens qui font carrière en sport automobile à l'heure actuelle, on les compte, les gens qui vraiment vivent du sport automobile en France, je dirais qu'on les compte sur les doigts d'une main. Donc c'est très difficile de faire carrière, très très difficile, et peut-être que ce n'est pas la monoplace qui serait actuellement le meilleur vecteur, mais plutôt les voitures fermées, les courses de sport prototype, comme les 24 heures du Mans, où il y a sans doute plus d'opportunités pour un jeune à trouver de la place qu'en monoplace, où la Formule 1 c'est complètement bouclé. Il n'y a d'ailleurs plus français depuis...
Apparemment, il y aurait peut-être des bonnes nouvelles.
Bon. Hein,
il pourrait, Sébastien Bourdais, rester chez Toro Rosso. Mais enfin, c'est pas encore sûr. Mais apparemment, il y aurait de bonnes nouvelles de ce côté-là.
Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle, mais c'est vrai que le terrain est difficile pour la monoplace.
Alors vous, justement, la voiture, vous la changez tous les ans, vous la briquez, vous la relookez, comme on dit, vous la revendez, vous en rachetez une autre?
Alors, ce sont des choses qui arrivent. Ces dernières années, j'ai plutôt conservé les voitures. Bon, j'ai une voiture pour les courses historiques de 1984, une Spartan, un modèle qui a été fait en Angleterre par une petite société qui n'a pas une existence très longue. Mm-hmm. Et puis la deuxième voiture qui est une Swift 95 que j'utilise en course plus moderne, c'est pareil, commence à dater un peu, mais ce sont des voitures que nous connaissons bien, et finalement ce que nous perdons d'un côté, nous le gagnons de l'autre en efficacité de fonctionnement et de maintenance.
Mmh. Alors, l'intersaison, on passe justement à refaire sa voiture. Le stock, le matériel de rechange, quand on est comme vous, compétiteur au niveau sport automobile, c'est facile à trouver?
Alors, les pièces, ça ne pose absolument...
On a un partenariat avec...
Oui, les pièces, ça ne pose absolument aucun problème. On trouve tout ce qu'on veut en Angleterre.
Il faut d'ailleurs Internet.
Un exemple très simple, j'ai commandé tout un tas de pièces il y a quelques jours par Internet. Deux jours après, le paquet était à la maison. Donc.
Mm-hmm. C'est vous qui vous occupez de la voiture entre les courses, où il y a aussi Lionel, où il y a toute une équipe à vos côtés, parce que ça aussi, il faut le dire, hein, entre les courses, on met la main dans le cambouis, si j'ose dire.
Alors, je fais une grande partie du travail, et pour les choses qui sont vraiment beaucoup plus difficiles, c'est Lionel qui s'en occupe. Mmh. Voilà, mais sinon, si on veut pouvoir rouler, et tous mes camarades font la même chose, il faut vraiment mettre la main à la pâte.
Ouais, donc il faut un stock important quand même sur une saison.
Il faut du stock.
Ça,
au fil des années, on a beaucoup de choses. Moi, j'ai énormément de pièces différentes, et puis avec ça, on arrive à se débrouiller. Comme je vous disais à l'instant, on trouve quasiment tout, et les pièces que nous n'avons pas, on peut, alors, comme ce sont des voitures anglaises, ce sont les artisans anglais qui s'en chargent. On peut faire absolument n'importe quelle pièce. Et à titre d'exemple, nous avons fait réaliser des triangles pour une voiture à partir d'un modèle. Et on fait absolument tout.
Et les voitures, elles se revendent bien, elles se revendent facilement après des années de compétition?
Oui, les voitures se revendent assez bien, car elles sont entretenues à neuf. On ne laisse jamais quelque chose se dégrader. Si une pièce est en mauvais état, elle est changée. Donc les voitures sont connues, la façon de travailler des gens est connue. Donc ça aussi, ça aide à vendre.
Alors vous parliez des rapports entre les concurrents en disant qu'on se faisait pas de cadeaux il y a quelques années. On était prêt à prendre tous les risques.
Alors ça, c'est resté complètement identique.
Voilà.
Sur la piste, on se trouve dans des situations qui feraient dresser les cheveux sur la tête à n'importe quel automobiliste sur la route, lambda, ouais. Voilà. Et puis après, une fois que c'est fini, tout ça se passe très très bien.
Oui, mais enfin, on est parfois à la limite, hein. Je suppose qu'on doit être parfois à la limite de l'accident ou de...
Ah ben, parfois, nous sommes même au-delà de la limite, ouais, en dehors de la
piste.
Faut
pas le dire, aux proches qui écoutent.
Oui, et des coups. Par exemple, la dernière course que j'ai faite, là, c'était extrêmement violent durant toute la course, mais ce sont de vraies courses. Mmh. Et même de l'avis des spectateurs, sur le week-end de course, la course de Formule Ford qui a eu lieu était la course la plus endiablée, on peut dire.
Ouais. Mais on mesure le risque que l'on prend, mais ça on le mesure avec le recul. Après, quand on est dans le feu de l'action, on n'y pense pas à ça.
Quand on est dans le feu de l'action, on cherche à aller le plus vite possible, absolument. À garder sa place et à prendre la place de celui qui est devant, et puis voilà. Mmh. Si on se met à penser au risque...
C'est avec un coup du temps, on se dit, tiens là, effectivement, j'ai peut-être échappé belle, quoi.
Oui et non, parce que tant qu'il ne s'est rien passé d'ennuyeux, c'est que finalement, le risque n'était pas encore suffisant.
On repousse toujours les limites. Et l'entourage, comment il réagit? Vos fans, vos supporters, votre famille, Pierre?
Ma famille...
Ils tremblent quand vous partez?
Au début, et puis on s'habitue à tout aussi. Et puis tous les gens qui sont autour sont des habitués, donc ce qu'ils souhaitent, c'est voir aller le pilote le plus vite possible, et puis voilà.
Mmh. Voilà. Alors, il y a une préparation physique quand même. En parallèle, est-ce que l'hiver, comme ça, durant l'intersaison, vous faites une petite préparation physique ?
Alors ça, il faudrait, c'est sûr.
Parce qu'on rentre complètement lessivé après une course, il faut le dire quand même.
Il arrive des fois
au grand public, on est cuit, on est partout. Hein.
C'est vrai que des fois, c'est la fin d'une course, c'est assez difficile. Mais bon, la préparation physique, pour être franc, elle est un peu négligée parce qu'il y a le travail à l'atelier, bon, ce qu'on a à faire d'autre, et il faut vraiment s'en occuper, s'en occuper.
On perd beaucoup de poids dans une course, on peut perdre beaucoup.
Sans doute, parce que j'ai vu, bon, notamment l'été où quand il fait très chaud, on peut transpirer énormément, transpirer pendant une heure après la course encore, être obligé de boire beaucoup, effectivement, et finir. Alors, les courses de sprint que je fais en Formule Ford, c'est un effort qui est violent, mais relativement bref, puisqu'il n'excède pas une demi-heure. Mais si on prend les courses d'endurance qui sont faites avec Philippe sur les Clio, ça demande un effort beaucoup plus long et bon, j'ai vu certaines fois où les pilotes finissaient dans un état un peu fatigué, disons.
Oui, je m'en doute. Et on récupère facilement ou alors il y a plusieurs jours pour récupérer ?
Non, quand on est quand même en forme normale, ça va. Hein. Il faut pas non plus.
Très bien. Alors avant d'envoyer donc la pub, je vais quand même vous donner les résultats concernant les championnats de France FFGT qui se sont déroulés la semaine dernière du côté donc de Limours, dans l'Essonne. Chez les seniors, la victoire, elle est revenue à Romain Bois, un coureur de l'Aube, en 51 minutes et 13 secondes. Le deuxième, c'est Julien Almansa de la Haute-Garonne. Et le troisième, donc Jérémy Benoît du Nord-Pas-de-Calais. Premier essonien, c'est Grégory Bonan, 13e. Et puis chez les cadets, victoire de Benjamin Lemaître des Alpes-Maritimes en 28 minutes et 4 secondes. Coup double aussi pour donc chez les juniors avec Jérémy Morel, lui aussi vainqueur des Alpes-Maritimes en 41 minutes et 20 secondes. Victoire de Céline Quillac, la francilienne, donc en 34 minutes chez les féminines. Chez les vétérans, c'est David Batty de la Loire qui s'impose en 46 minutes. Et dans les super vétérans, c'est Arthur De Faria, un Estonien, qui s'impose en 41 minutes et 3 secondes. Vous nous envoyez la pub, Pierre. Allez.
Alors, la publicité maintenant.
Allez, on y va.
Allons-y.
Météo. Alors la météo pour ce dimanche matin, eh bien nous aurons comme hier samedi des brumes et des nuages entrecoupés d'éclaircies. Les températures sont très froides ce matin, moins 2 degrés, et ça va atteindre péniblement les 0 degrés cet après-midi. C'est à partir de lundi que le temps devrait se dégrader légèrement, avec des nuages et des averses de neige qui sont prévues selon les endroits.
Retrouvez la prévision météo
sur le serveur de Météo France au 3250.
Éphéméride sur RVE.
Éphéméride.
Les éphémérides vous sont présentés par le San Lazzaro, restaurant italien à Rambouillet.
Bonjour, nous sommes le 1er février, nous fêtons les Ella ainsi que les Viridiana. La citation du jour, il y a un siècle pour les blondes, un autre pour les brunes, la mode elle-même et les pays règlent souvent ce qu'on appelle la beauté. Blaise Pascal. Ça s'est passé un 1er février. En 1887, un investisseur immobilier enregistre son ranch sous le nom de Hollywood. En 1903, Hollywood obtiendra le statut de ville et sera annexé à Los Angeles en 1910. Les premiers cinéastes ont adopté la région à cause de son climat et surtout parce qu'ils pouvaient travailler loin des puissants cartels de la côte Est qui exerçaient un contrôle total sur les brevets permettant l'usage des premiers appareils et instruments de cinéma. En 1949, la RCA Victor dévoile le premier lecteur de 45 tours. En 1970, une des pires catastrophes ferroviaires des 50 dernières années fait quelques 235 victimes en Argentine alors que deux trains sont entrés en collision à une trentaine de kilomètres de Buenos Aires. En 1986, Diana Ross épouse en Suisse le millionnaire norvégien Am Næss, un armateur passionné d'alpinisme. En 1997, fin de l'utilisation du Morse. Et en 2003, pratiquement 17 ans après l'explosion de Challenger, la NASA perd une seconde navette spatiale lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Columbia se désintègre, tuant ses 7 occupants, dont le premier astronaute israélien. Les résultats préliminaires de l'enquête indiquent qu'une brèche s'est formée dans le bouclier thermique au niveau de l'aile gauche, entraînant la fonte des structures en aluminium. On passe aux anniversaires, si c'est le vôtre, très bon anniversaire. 1859, naissance de Victor Herbert, compositeur. En 1922, naissance de Renata Tebaldi, cantatrice. En 1947, naissance de Mike Brand, chanteur. En 1952, naissance de Jean Roucas à Marseille, c'est un humoriste. Et en 1966, naissance de Laurent Garnier à Boulogne-sur-Seine, c'est un disque jockey français. 1939, naissance de Claude François, chanteur, notamment comme d'habitude et de plein d'autres succès que vous connaissez évidemment. Je vous souhaite une excellente journée.
Bonne fête à tous avec le San Lanzaro. La Grange Bio, votre épicerie de produits biologiques, écologiques et naturels. Fruits et légumes, crèmeries surgelées, pains, épiceries, compléments alimentaires, produits cosmétiques et d'entretien et son rayon sans gluten. La Grange Bio, la garantie de qualité avec des produits de grande marque. Animation, mini-conférence régulièrement et présence de la naturopathe Florence Cariou, naturopathe iridologue. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h30 et de 15h à 19h30, sauf le samedi, fermeture à 18h30. La Grange Bio, 109 rue du Général de Gaulle, à Rambouillet, au passage Fleury, 01 30 88 21 32.
Kiss. Le samedi 7 février à 11h, mini-conférence, la bonne utilisation des huiles végétales.
Prestige Fermeture vous annonce son transfert à Épernon, 190 avenue de l'Europe. Porte de garage, portail, automatisme, fenêtres, volets. Venez découvrir son nouvel espace. Études personnalisées et gratuites au 02 37 31 40 66. Profitez de déductions fiscales, d'économies thermiques, d'une TVA à 5,5% et d'une étude de financement. Voir conditions en magasin. Prestige Fermeture, du choix et des conseils pour votre confort. La qualité de nos services, c'est notre différence.
Voilà, puis c'est aussi l'anniversaire de notre ami Jean-Marc, Josh, ce matin. Donc vous n'hésitez pas, vous appelez au 01 30 41 15 15. Pour lui, c'était un bon anniversaire. Allez, Philippe, vous, oui. Le bilan de cette année.
Le bilan de cette année, au niveau des résultats, c'est pas trop mauvais. On s'est même amélioré par rapport à l'année dernière. Par contre, au niveau incident, cette année, on a été plus que servi, quoi.
D'accord. Voilà. Alors, vous participez à quel type de course, formule?
Nous, c'est des courses d'endurance qui vont de 3 heures jusqu'à 6 heures, voire 8 heures.
Oui, d'accord.
Donc, le matériel est mis à rude épreuve, quoi. Mm-hmm. Et bon, cette année, il faut dire que bon, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé en dehors des courses et pendant les courses aussi, malheureusement. Il a fallu des fois reconstruire la voiture.
Alors vous êtes par équipe de deux, c'est ça? Vous avez un coéquipier, c'est ça?
Ouais, on a un coéquipier, oui. Mais bon, quand vous avez des courses de 6 voire 8 heures, on est même 3 pilotes.
Ouais, comme au Mans.
Quasiment, ouais, enfin, bon, on n'est pas au Mans quand
oui,
même.
Oui, non, mais comme au Mans.
Ouais, absolument. Ouais, parce que bon, comme disait Pierre tout à l'heure, au niveau des efforts, faut, au bout de 2 heures de course, je peux vous dire qu'on est, bien fatigué.
Alors, pourquoi plus l'endurance que, par exemple, les formules Ford, comme fait Pierre?
Pourquoi plus l'endurance? Disons que l'endurance a un avantage, enfin, je trouve, par rapport au sprint, c'est que, mais c'est purement pour sa satisfaction personnelle, c'est-à-dire qu'on profite vraiment de la voiture. Ouais. Un sprint, des fois, c'est un peu frustrant, il suffit qu'on loupe un peu le départ, ou qu'on soit pas tout de suite dans l'action, on a vite fait 20 tours, et puis 20 tours, après, c'est le drapeau à damier, on n'a plus qu'à ranger le matériel, quoi. Alors qu'une course d'endurance, vous profitez de la voiture au moins un minimum d'un relais d'une heure et demie, voire deux heures, et c'est sympa aussi, quoi. C'est pas du tout la même chose.
Pierre, ça vous plairait de faire l'endurance? Pourquoi pas faire équipe avec Philippe, hein,
pour essayer? Ça s'est déjà fait. S'est déjà fait. Alors, c'est tout à fait agréable. Et cette année, malheureusement, la seule course où j'étais engagé, le moteur
le
a
noir,
cassé.
Le chat noir.
Voilà, comme l'a dit Philippe, avons travaillé quasiment toute la nuit pour remettre un deuxième moteur qu'un des coéquipiers était revenu chercher en région parisienne. Enfin, et puis au matin, le deuxième moteur ne fonctionnait pas correctement, donc c'était pas raisonnable de prendre le départ.
Mmh. Alors, combien de courses par an vous faites? Vous en faites 9...
Disons que le programme, c'est il y a une dizaine de courses,
ouais,
nous on en fait 8.
Comme Pierre,
on en fait 8.
Ça vous amène sur quel type de circuit?
Là aussi, pareil. On va à Madrid, à Jarama, on va à Estoril au Portugal, on va. Cette année, on n'a pas été à Spa-Francorchamps, mais bon, on va à Lausitz, en Allemagne, ex-Allemagne de l'Est, on va à Manicou,
Paul Ricard.
Cette année, on va à Paul Ricard. Justement, Paul Ricard, apparemment, a l'air de se rouvrir aux compétitions automobiles, donc c'est peut-être pas forcément une mauvaise nouvelle, et puis voilà, quoi. Mais on fait un peu les circuits européens et français, quoi.
Alors, même chose que pour Pierre, vous partez 2-3 jours avant, avec toute une équipe autour, ou vous arrivez vraiment contraint forcé au tout dernier moment
Bon, disons que nous, on
parce
arrive en général.
C'est une question professionnelle qui
pose. Ouais, bien sûr, mais en général, il faut être là sur place le jeudi soir, quoi. C'est clair, puisque les essais commencent le vendredi, donc faut être opérationnel. Souvent, nous, Pierre nous donne avec Lionel un bon coup de main. Ils partent même des fois bien avant. Quand il faut aller à Jarama, à Madrid, ils partent une semaine avant, quasiment, quoi. Pour être rendu là-bas pour le
donc
jeudi.
Donc c'est pareil, on essaye la voiture, le véhicule.
Oui, on essaye de la régler le mieux possible.
Ouais, on prie pour qu'il n'y ait pas de casse.
Ouais, bon, on a mal prié cette année. Ouais.
Donc beaucoup de casse.
Oh là là, oui, ouais. énormément. On a pris.
Dû à quoi à des accidents de course ou à matériel hyper.
Disons que. Bon, les moteurs, sont mis à rude épreuve. Là, on en a quand même pris 3 dans la figure cette saison. Il y a eu un tonneau, enfin 2,5 tonneaux, un mur. Ça a été très très dur. Très dur. Ah oui. Un mur après un tonneau. Hein.
Ouais.
La course d'avant, il a fait 2,5 tonneaux, la caisse était détruite, donc on a changé la coque en 3 semaines. Et la course d'après, 3 semaines plus tard, il a pris un mur.
Mm-hmm. Donc, et pour vous aussi, on ne se fait pas de cadeaux, on gagne de l'argent aussi.
Ah, rien du tout,
rien
on
du
garde
tout pareil.
Une belle timbale et puis voilà quoi.
Ah, oui. Et pourtant, on ne se fait pas de cadeaux.
De toute façon, le but d'une course, c'est d'arriver le mieux placé possible. Quoi. Donc on lâche rien, quoi. On essaye de.
Mm-hmm. Est-ce que vous aussi, parfois, vous faites peur avec le recul du temps? Parce que des tonneaux, des murs, on se dit, est-ce que ça en vaut la peine, quoi?
Oui, ça vaut toujours la peine, bien sûr. Okay. Non, mais il n'y a pas énormément de risques. On est bien harnaché, on est bien protégé. Donc, bon, un tonneau, c'est pas non plus. Non, on s'en remet bien, hein, c'est pas le problème.
La preuve.
Mieux que la voiture, en tous les cas.
La preuve,
ouais.
Voilà. Alors, votre voiture, naturellement, il y a beaucoup de casse. Vous la changez aussi durant l'intersaison? Vous la revendez?
On aimerait bien la changer, mais pour l'instant, il y a un problème de moyens et de budget. Donc, en général, en intersaison, comme ça, on reconstruit la voiture complètement, on change tout. On essaye de la rendre la plus fiable possible, et puis nous, on repart toujours avec la même monture. Mmh. On aimerait bien prendre une monture un peu, mais bon, pour l'instant.
Donc, faire avec. Vos souhaits, vos ambitions pour l'année 2009, c'est d'abord d'avoir un peu plus de chance.
Ouais, d'avoir un peu moins de casse, parce que ça, c'est vrai que ça gâche un peu le plaisir des fois.
Mm-hmm.
Et puis, on espère aussi réunir un budget suffisant pour faire tout le championnat, quoi, parce que là, c'est le problème.
Pierre, c'est pareil, vous souhaitez vos souhaits pour 2009, qu'est-ce que vous souhaitez? Il y a une course que vous avez cochée plus particulièrement qu'une autre sur le calendrier?
Oui, à nouveau la course de Charade, c'est-à-dire à Clermont-Ferrand. Mais sinon, je vais repartir pour une petite saison, comme d'habitude. Mmh. Voilà. Et puis alors, si ce nouveau championnat en Formule Ford 1800 fonctionne bien, pourquoi pas quelques courses dans cette catégorie-là en plus.
Mmh. Philippe, est-ce qu'il y a une course plus qu'une autre que vous avez cochée? Parce qu'on a tous des circuits fétiches quand même.
Ouais,
on est pilote automobile. Hein,
ouais. Course fétiche, enfin si, ouais, j'aimerais bien retourner. C'est assez curieux d'ailleurs. La saison dernière, on a été allé de Nantes pour la première fois. Je suis arrivé sur ce circuit-là, j'avais qu'une idée, c'est de vouloir repartir parce que j'y arrivais pas. Et puis la course est arrivée et je me suis vraiment super bien éclaté, tellement que je suis sorti, et j'aimerais bien y retourner.
Mmh.
C'est un circuit Lednon qui me paraît très sympa, surtout avec nos Clio qui sont assez vives dans les virages. Quoi,
ouais, voilà. Vous, c'est sur donc les Clio.
Ouais.
Vous faites une préparation physique, quoi. Non, très peu.
On devrait.
C'est voilà. comme Pierre.
Oui, non, pas vraiment. Ah. Non. Et on se rend compte qu'on en aurait peut-être un peu besoin quand même.
Là aussi, on rentre complètement cuit. Quoi.
Voilà.
Vous allez à combien au niveau vitesse? Ça, c'est pour le grand public. Allez.
Oh là là, je sais pas, j'ai aucune idée, mais bon.
À Dijon
ou même Magny-Cours, je pense qu'on prend un bon 2,30, 2,40. Hein,
ouais, donc 230,
avec 240, une Clio.
Hein. Qu'on se le dise, que les auditeurs qui les écoutent savent que vous allez. Alors justement, vous parliez du financement, ça c'est l'éternel problème. Hein.
Ouais.
Si on n'a pas de financement, on ne fait pas de sport mécanique. Alors, vous avez donc des partenaires qui vous aident pour les pièces et pour les stocks de rechange, mais pour le reste. C'est votre argent de poche.
Ouais. Malheureusement, c'est l'argent de poche et plus ça va, plus c'est l'argent de poche, quoi. Parce que plus ça va, moins il y a de budget de sponsors et tout, parce que c'est des restrictions.
Hein. Alors justement, on sait qu'on est dans une période économique particulièrement difficile. Votre sport en pâtit.
Alors dans la catégorie des voitures historiques, ça se sent un petit peu moins parce que bon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont financièrement assez au point et bon, ça ne, comme ce sont des courses assez courtes, ça engage moins de frais que les courses d'endurance. Parce qu'il y a une chose à connaître actuellement, les prix pour une course, les prix des engagements sont rapportés au temps passé sur la piste.
Ah bon ?
Ce qui veut dire qu'une course, par exemple, d'une demi-heure, a un certain prix de revient. Et si c'est une course de 3 heures ou 4 heures, c'est beaucoup plus cher. Donc, c'est vrai que le budget pour les courses des Clio avec Philippe, c'est quelque chose qui est beaucoup plus onéreux que les courses de sprint en Formule Ford.
D'accord. Mais il y a tout le reste. Il y a le prix d'une licence. Déjà, ça coûte cher.
Une licence, c'est 400 euros à peu près.
400 euros pour l'année. Il y a naturellement l'équipement. Hein.
Oui, mais enfin, l'équipement, une fois qu'on l'a.
Il revient à longueur d'année.
Voilà, c'est le même. Alors, sauf quand les normes changent. Alors, il y a des équipements qui sont à changer quand même assez fréquemment. Enfin, fréquemment. Les harnais, enfin, les ceintures de sécurité, donc, sont à changer tous les 5 ans. Les extincteurs, tous les 2 ans. Enfin, à vérifier. Donc, il y a quelques frais comme ça qui sont cycliques, mais enfin.
Et permis de conduire obligatoire. Si on se fait retirer son permis, on peut faire la compétition auto.
En principe, non. C'est une question qui n'est pas très claire.
Voilà. C'est pour ça que je la pose.
Mais en principe, le permis de conduire est obligatoire, mais on n'a pas à le présenter. Donc, par contre, il y a quelques années, il fallait absolument présenter son permis de conduire.
Vous n'allez pas me dire qu'il y en a qui n'ont pas le permis qui conduisent
Je ne dirai rien.
Philippe ?
Oui, non, mais bon, c'est vrai qu'on nous réclame plus du tout le permis de conduire à partir du moment où on arrive à présent. Enfin, on présente la licence. Ils vont pas plus loin, ils cherchent pas plus loin, quoi.
Donc, alors, il y a naturellement donc l'équipement, la licence, et puis ce qui coûte plus cher, finalement, bon, outre le stock et les pièces de rechange, c'est le côté déplacement.
Ouais, c'est sûr. Mais enfin bon.
Vous partez avec la remorque.
Ouais, nous, justement, par l'intermédiaire, avec l'aide de Pierre, oui. Colette, Lionel et tout ça, bon, on minimise vraiment les frais parce que c'est vrai que ça coûte une certaine somme d'argent, mais on dort sur place.
Oui, mais vous dormez où justement ?
Ah ben on dort dans les camions. Hein.
Oui, d'accord.
On réduit les coûts.
Hôtels,
pas se permettre.
Oui, Pierre. Oui, ce que Philippe ne pense pas à dire, c'est quand même que la saison 2008, les frais de déplacement, et nous sommes bien placés pour en parler, ont été très élevés en raison du prix des carburants.
Oui, absolument.
Oui, en plus, ça rentre en ligne de compte aussi. Et alors justement, on pourrait gagner des prix qui permettraient de rentrer.
De soulager un peu, oui, mais non. Non, pas du tout, rien du tout.
Vous êtes optimiste pour la suite des événements parce que votre sport va fatalement en pâtir. Hein.
Oui, mais je crois que si le sport automobile est bien géré, il saura s'adapter aux circonstances. Et notamment, depuis quelques années, il y a eu de gros efforts sur la réduction du bruit. Et donc les voitures ont des silencieux elles font moins de bruit qu'à une époque. Et je crois que tout le monde s'en porte très bien parce que même nous, je me souviens, bon, il y a une vingtaine d'années, quand on avait passé un week-end sur un circuit avec les échappements libres, c'était quand même assez désagréable, et c'est beaucoup mieux que les voitures fassent moins de bruit.
Oui.
Pour tout le monde, finalement.
C'est plus écologique, ça aussi, ça rentre en ligne de compte, je veux dire, on en tient compte de ça.
Oui, on peut dire que c'est écologique, mais c'est surtout un confort, même pour les riverains également, que les gens souffrent moins du bruit, c'est normal.
Alors, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de jeunes qui viennent à ce micro parler de sport automobile, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se lancer dans ce sport. Il faut dire que si on n'a pas une petite part d'investissement, c'est pas possible.
Oh, tout est possible quand on veut le faire. L'investissement.
Faut commencer par le karting, peut-être.
Oui, on peut faire du karting, mais on peut s'acheter, par exemple, en Angleterre, en ce moment, avec la livre qui diminue, on peut s'acheter une Formule Ford pour 4 ou 5 000 livres. On a une voiture de course complète, 4 ou 5 000 livres. La livre est venue maintenant au même niveau que l'euro. Voilà, on change. Bon, après, il faut un petit peu de matériel, mais on peut acheter une vieille camionnette, un plateau d'occasion. Celui qui veut faire quelque chose le fait. Soyons clairs. Ouais.
Philippe, vos proches, ils réagissent comment? Ils ont peur pour vous aussi?
Ouais,
au départ, quand on vous a dit je vais faire la compétition auto, ils ont dit non, surtout pas ça.
Ouais, bon, oui, si, sûrement qu'ils l'ont dit. Bon, je l'ai pas, j'ai fait en sorte de ne pas l'entendre, mais après, ils s'habituent un petit peu. Mais enfin, c'est sûr que quand on part en course le jeudi matin, bon, on sent bien une petite appréhension, quoi, dans les. Enfin, bon, c'est comme ça. Et puis, on revient le dimanche soir, tout va bien après.
Donc, ce qui est bien, c'est que vos dates dans le calendrier sont différentes, donc chacun va voir l'autre, quoi.
Ouais, pas toujours.
Ça peut arriver, enfin, même jour, qu'il y a des courses qui tombent dans les deux catégories pour vous, même jour ou même week-end.
Je sais pas si c'est déjà... Alors ça va arriver cette année avec la course du Castellet où nous serons en principe à Francorchamps et où
c'est
pas Philippe
même endroit, c'est l'autre côté.
Non, voilà. C'est pas vraiment
c'est plus bas le Castellet, beaucoup plus bas. Donc là, il faudra faire un choix.
Ah ben, on fera un choix, mais je crois que le choix a été fait déjà plus ou moins pour une raison de budget. Je crois que même Paul Ricard, malheureusement, on n'ira pas. Voilà. Donc voilà. Nous, la saison, en principe, si rien ne change, la saison commencera qu'au mois de mai.
Donc ça veut dire que on a les courses, mais on n'est pas obligé de s'engager, de s'inscrire. Quoi. On peut faire qu'une course par an, pratiquement.
Ouais, bien sûr. Enfin bon, c'est l'intérêt, c'est de faire quand même quelques courses, essayer de participer au championnat quand même. Mm-hmm. Mais bon, le nerf de la guerre, malheureusement maintenant, enfin dans nos catégories au niveau endurance et tout ça, c'est l'argent quoi.
Bah oui, bien sûr. Surtout en sport auto.
Énorme.
Surtout dans le sport mécanique. Ouais,
Et ça va pas en diminuant. Hein.
C'est pour ça que. Bah écoutez, on va vous souhaiter bonne chance.
Merci.
Hein. Alors justement, de l'argent, il va en falloir aussi pour Sébastien Bourdet. Hein. On disait que il y avait peut-être des bonnes nouvelles, mais apparemment, Philippe.
Ouais, moi j'ai entendu aussi, dire que Sébastien Bourdet hésitait peut-être entre un volant de Formule 1 et un super contrat aux États-Unis qui serait beaucoup plus lucratif pour lui. Mais bon, il a pas pris sa décision. Je crois que le point d'hésitation, c'est ça, quoi.
Alors justement, ça tombe très bien parce qu'on fait la transition avec la Formule 1. On a vécu une belle saison, 2008, une saison exceptionnelle. Hein, on s'est tellement ennuyé pendant des années qu'on va pas se plaindre d'avoir maintenant depuis 2-3 saisons des belles saisons. On peut souhaiter qu'on vive le même type de saison
sympa,
à partir de la fin mars.
J'espère bien, avec même peut-être un peu plus de voitures susceptibles de gagner le championnat, quoi. Si Renault
Hamilton, c'est un pilote talentueux, champion du monde, le plus jeune champion du monde de la Formule 1. Je crois qu'il va en gagner d'autres.
C'est écrit. C'est écrit, c'est sûr.
Ça peut être le plus grand champion de tous les temps, plus qu'un Schumacher. Il peut en aligner 7.
Pourquoi pas, mais je sais pas, il faudrait quand même. Il est encore jeune, mais il faudrait que dans sa tête, déjà, ça aille. Il soit un peu plus posé et tout, parce que des fois, il a du mal à supporter la pression, quoi. Mais bon, ça, je pense que au fur et à mesure, ça va venir.
Hein. C'est quand même incroyable de gagner comme il a gagné.
Ah, bah oui, ça c'est
300 mètres avant, il avait perdu, quoi.
C'était vraiment à l'arrache. C'était sympa, par contre.
Pierre, c'est bien, parce que c'est vrai que pendant des années, on s'est dit, la Formule 1, c'est pas marrant, c'est toujours Schumacher qui gagne. Depuis quelques années, depuis 2-3 ans, on a des saisons et des grands prix beaucoup plus ouverts, à l'image de ceux qui gagnent les grands prix. Hein, on a beaucoup plus de vainqueurs différents au cours de la saison.
Oui, c'était aussi une volonté de la FIA de réagir, parce qu'il faut que la Formule 1 reste un spectacle. Hein, sinon
c'est la vitrine.
C'est la vitrine. Et donc, c'est vrai que la saison dernière a été assez extraordinaire. Et puis quand même, rappelons que Hamilton gagne d'un point.
Oui.
D'un point sur Massa.
À 300 mètres, il était battu. Voilà,
tout à fait. Et puis et Hamilton est vraiment, notamment en Angleterre, est un héros national.
En plus, c'est
impressionnant.
Le plus jeune champion du monde de la Formule 1, un champion métis quelques jours avant Obama, c'était un beau symbole.
Tout à fait.
Alors, il est un peu fougueux, mais c'est vrai qu'il va apprendre à canaliser ses forces. Il est parti pour un long bail quand même.
Je pense, d'autant plus que c'est une sorte de produit, parce qu'il a été pris très très jeune, on lui a fait faire du kart, il a été encadré dans toutes les formules de promotion possibles et imaginables avant d'être lancé en Formule 1, et il a vraiment un bagage derrière lui extraordinaire, et tout a été fait pour qu'effectivement ça devienne le grand champion que les Britanniques attendaient depuis longtemps.
Et encore un qui a commencé par le kart.
Hein, oui, absolument.
Parce qu'on s'aperçoit vraiment tous ceux qui deviennent pratiquement champions du monde, ils commencent tous par le kart. Ça reste encore la meilleure valeur, la meilleure antichambre.
Ah ben oui, oui, c'est quasiment une obligation et c'est là où on apprend quand même les bases, les bases du métier. Enfin, bon, je peux aussi en témoigner.
Alors justement, on risque peut-être de ne pas avoir de pilote français et puis il n'y aura pas de Grand Prix de France inscrit cette année dans le calendrier, même peut-être pas en 2010. On cherche des circuits, donc c'est Niet du côté de Marne-la-Vallée, c'est Niet, on l'a appris cette semaine du côté de Flins. Il reste quoi à l'Oise avec le projet Jean-Pierre Beltoise, Charles Bietri?
Ben oui, espérons que ce projet puisse se concrétiser parce que très franchement, depuis donc la fermeture de Montlhéry, il manque vraiment un circuit digne de ce nom en région parisienne. La région parisienne quand même qui concentre énormément de passionnés et où pour faire un essai sur un circuit où on peut vraiment régler une voiture, le plus proche c'est Le Mans. Ça fait quand même un trajet relativement conséquent, même si c'est ce qui est la piste la plus proche.
Oui, alors on avait parlé en moment de Versailles, on avait parlé, et pourquoi pas Paris?
Ah, dans Paris?
Oui, ça serait bien là.
Oui, oui. Bon, c'est difficilement réalisable, je pense.
C'est difficile.
Ouais, je pense aussi. Et puis bon, en ville comme ça, dans Paris,
Il y a bien des pays qui font en plein centre-ville les grands prix. Hein.
Ouais.
Alors je voudrais d'ailleurs rappeler qu'il a été organisé fin des années 70, deux années, il y a eu des courses de cartes sur l'avenue de Paris à Versailles.
Oui, c'est pour ça qu'on avait parlé du projet de Versailles.
Alors c'est vrai que Versailles, les avenues qui font face au château sont très très larges.
Bah oui. Bon, Paris, les Champs-Élysées, c'est large aussi.
C'est large aussi.
Donc on pourrait très bien orchestrer un circuit autour. Alors, on parlait de Montlhéry, ça nous intéresse, c'est tout près d'ici, hein, c'est pas très loin. Alors, Montlhéry, Pierre, vous disiez que ça commence à revivre un peu.
Alors Montlhéry, effectivement, les gestionnaires du circuit, et rappelons que le circuit de Montlhéry est entièrement la propriété de l'UTAC qui sert aux essais des voitures pour les journalistes, aux essais des voitures neuves pour les homologations, pour les carburants, enfin tout un tas de choses comme ça administratives. Et malgré ce que pensaient beaucoup de gens, l'UTAC a continué à entretenir l'anneau de vitesse, bouchant avec du ciment quand il y avait des trous, refaisant les poteaux, parce que l'anneau est une structure qui est posée sur des milliers de poteaux en ciment, en béton armé derrière, et donc chaque poteau en mauvais état a été réparé. Donc il y a une volonté quand même de conserver cet équipement. Et l'an dernier, à l'occasion de la journée du patrimoine, le circuit a été à nouveau ouvert au public, ce qui n'était pas arrivé quand même depuis quelques années. Et tous les gens ont pu rentrer, moyennant une invitation, mais qu'on obtenait sans difficulté. Et l'an prochain, il serait prévu deux journées, ce qui déjà est un progrès. Et bon, souhaitons que... Maintenant, il est hors de question quand même d'organiser des courses sur le circuit.
Le circuit, carrément, le revêtement est en train de...
Et puis refaire un nouveau circuit, ça me paraît complètement irréaliste. Ouais. Donc, rouler sur l'anneau en démonstration, même sur le circuit, c'est possible. Mais ça, vraisemblablement, ça s'arrêtera là.
D'accord, ok. Donc Philippe, c'est pareil, hein, on n'ira pas voir des Grands Prix de Formule 1 à Montlhéry. Hein.
J'en ai bien peur, non, c'est hors de question.
Il y avait eu de la sauvegarde, hein, il y avait eu un comité de sauvegarde qui s'était créé. On a vu quelqu'un au téléphone dans une émission Tribune Sport il y a quelques années qui demandait à ce que effectivement ce circuit puisse être remis en route.
Mais il y a une grosse activité avec des associations, des gens qui ont un site internet, enfin ça remue pas mal et les gens s'en occupent, n'ont jamais laissé tomber Montlhéry. Ça, il faut le savoir.
Alors, il y avait aussi une démonstration de voitures anciennes tous les ans. Je me souviens avoir couvert cet événement il y a une bonne vingtaine d'années.
C'était le Bugatti à Montlhéry. Voilà. Ah bah c'était le Bugatti à Montlhéry, mais c'était les Coupes de l'âge d'or. Ça ne se fait plus depuis 2004.
Bah oui, parce que circuit fermé oblige. Voilà. Alors, vous vouliez aussi avoir un petit mot sur Sébastien Loeb, parce qu'on disait qu'on a un fou week-end de sport, hein, Pierre. Et dans ce fou week-end de sport, il y a aussi le début de la saison des rallyes. Apparemment, on prend les mêmes et on recommence. Loeb s'en va vers une victoire en Irlande.
Oui, bah, apparemment, en Irlande, il est en tête sur la Xara. Et Bah, souhaitons-lui le...
C'est plus une Zara, Pierre. C'est une C4, mais c'est
une
pas grave.
C4, oui. Bon. Et donc, il est en tête à l'heure où nous parlons et souhaitons que rien n'arrive parce qu'en rallye, c'est un sport automobile aussi. Et même Loeb, malheureusement, bon...
Ouais. Merveilleux champion, quand même. Champion exceptionnel par un... Il vise un 6e titre consécutif. Ça paraît incroyable, quoi. Il va rentrer dans les très grands.
Schumacher,
Armstrong, tous les très grands du sport, quoi.
Il est dans les très grands et c'est un grand sportif, vraiment, quoi.
Il bat tous les records, puis il arrive toujours à rester très, très motivé, très concentré, puis toujours très clean, très zen.
Oui. Ouais. Et ouais. Alors, nous avons un peu l'espoir, nous qui sommes des pistards, de le voir orienter sa carrière sur la piste, en endurance, par exemple. Oui. Il a déjà roulé très brillamment aux 24 heures du Mans.
Ouais.
Et ce serait un couronnement pour lui, quand même, de faire
Je crois qu'effectivement, en 2009, ça sera peut-être la dernière année sur les rallyes. Après, il va se poser peut-être la question de son devenir. Donc, effectivement, beaucoup s'orientent après vers l'endurance,
finalement. Ouais, vers l'endurance. Et puis, je pense que ça fait un petit moment que ça le chatouille un peu, je pense qu'il se fera plaisir aussi. Puis bon, je veux pas dire qu'en rallye il a fait le tour, mais presque. En plus de ça,
c'est ça qui est difficile, c'est de retrouver à chaque fois
la motivation. Et puis bon, là apparemment, il y a deux constructeurs qui se sont retirés. C'est vraiment peau de chagrin maintenant le rallye.
Oui, ça a été un peu effectivement. D'abord, on a vu le rallye de Monte Carlo n'est plus dans le programme WRC, donc déjà ça a perdu un peu de son lustre. Et c'est vrai qu'il y a des épreuves qui ont été amputées, un calendrier qui a été amputé, crise économique oblige.
Voilà, exactement, on arrive toujours à la même chose.
Sport automobile. Alors, autre événement important, Pierre, c'est quand même ce qu'on a appelé le Dakar-Argentine, ce que Gérard Rolls appelait. Alors, cette année, une épreuve qui s'est relancée au niveau de l'intérêt. Il est parti en Amérique du Sud et on s'est aperçu que finalement, que c'était beaucoup plus difficile qu'on le pensait.
Déjà, moi, je trouve que c'est bien dommage que les circonstances aient fait que le rallye Paris-Dakar ait quitté l'Afrique. Je trouve que c'est dommage pour l'Afrique.
C'est pas que c'est dommage, c'est dramatique.
Poétique et puis... diplomatique et puis à tout point de vue.
Mais
et je pense que...
On
ne pouvait plus jouer avec la sécurité, mais c'est bien dommage que ça soit passé ainsi, quoi. C'est quand même une sorte de renoncement. Alors par contre, ça a été un grand succès, ce Dakar en Argentine.
Oui, parce que d'abord, on a vu une ferveur populaire sans précédent. On a vu des paysages remarquables pour nous, téléspectateurs, même si ça s'apparentait peut-être plus à un genre de rallye.
De rallye sur terre. Tout à fait, mais enfin, c'est vrai que les Argentins sont des passionnés de sport automobile depuis des années.
C'est le deuxième sport après le foot là-bas.
Oui, absolument. Et longue vie au rallye Paris-Dakar en Amérique du Sud.
Apparemment, ça va repartir en Amérique du Sud et on s'est aperçu que sportivement, c'était beaucoup plus difficile qu'on avait pensé parce qu'il y a eu beaucoup d'abandon, il y a eu la victoire de Villiers, celle de beaucoup plus large de Coma en moto, mais on s'est aperçu que c'est une épreuve qui avait été cette année beaucoup plus exigeante qu'on ne pensait pour la plupart des favoris.
Je crois que c'est l'apanage d'un Dakar, justement, d'être difficile, et c'est ce qui en fait la qualité, quoi.
Ah oui. Et on aura d'ailleurs Alain Duclos, du Tremblay-sur-Mauldre, qui est maintenant parti sur Bordeaux. On l'aura d'ici quelques semaines. Il a participé à ce Dakar. Il a fini, certes, il a eu des premiers jours un peu difficile, mais on l'aura en tout cas au téléphone. Ça vous plaira un jour de vous lancer dans ce type, parce que on voit tout, on voit des baroudeurs aussi se lancer un peu dans ce genre d'aventure. Ça vous a jamais plu?
C'est pareil, c'est toute une organisation, c'est quelque
c'est
chose de différent. Un an à l'avance, mais écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Il faut aller taper les sponsors. Ça, c'est peut-être plus difficile.
Il y a de gros budgets à trouver, mais c'est certainement quelque chose de bien intéressant à réaliser.
Oui, Philippe, ça vous plairait aussi, vous?
Sûrement que ça me plairait. Maintenant, je pense que il y a le budget, et puis pour participer à ce genre de choses, il faut une très, 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 très grosse motivation, parce qu'il y a des moments, à mon la vie qui doit être très très dur à vivre.
On l'a vu parce que je pense que certains s'imaginent pas de la difficulté.
Non,
on a vu même
énorme,
les sportifs
énorme.
À l'abandon.
Les rugbymen, des gars qui sont habitués à des gros efforts.
Souffrir.
Ils n'ont jamais vécu ça.
Et cette année, on a vu encore que...
À mon avis, avant de partir, il faut être sûr de son coup.
Mais c'est vrai que ce Dakar Argentine a un peu relancé quand même l'intérêt pour ces rallye raids, hein, qui avait un peu été qui s'était un peu perdu. Par contre, il paraît qu'au niveau de l'état d'esprit, c'est plus l'esprit de Thierry Sabine. Hein. On a vu beaucoup de motards qui se plaignaient justement que les voitures n'étaient pas très réglo.
Oui, et ça c'est
même les camions.
Même les camions. Ouais. Bah, c'est aussi le sport automobile actuel, hein, qui veut ça. Donc,
c'est-à-dire on se professionnalise de plus en plus au détriment de.
Voilà, et puis donc les gens ont un peu des objectifs à réaliser. Il faut arriver coûte que coûte. Et c'est vrai que la poésie des premiers Dakar en prend un coup dans l'aile.
Oui, c'est dans l'air du temps.
C'est l'air du temps.
Ouais, c'est ça. Alors, vous vouliez aussi parler de moto, Pierre, parce que la moto, c'est aussi un sport qui vous intéresse.
Ben, je ne sais pas si vous aviez dit un mot, mais on peut rappeler quand même la victoire de Valentino Rossi pour la saison 2008. Là,
on parlait de Sébastien Loeb et Schumacher, mais
voilà,
Valentino Rossi, c'est la même chose.
Ça, c'est un phénomène aussi.
Ouais. Des personnages, un équilibriste hors pair.
Et puis, quel palmarès, hein. Voilà. 8 titres de champion du monde.
Alors, malheureusement, le premier Français en MotoGP, Sylvain Guintoli, ne fait que 13e. Hein, ce sont des courses difficiles. Alors, nous n'avions aucun représentant en 250. Et donc, en 125, belle année, puisque le jeune Mick
Guimeglio
sur sa derby, emporte le 125. Et le 125, c'est peut-être la catégorie la plus difficile, parce qu'il y a énormément de monde. Sont des jeunes qui sont complètement fous. Et donc, c'est phénoménal d'avoir réussi à l'emporter.
Oui, c'est vrai que ça a été un des grands exploits aussi de l'année 2008. On l'avait commenté avec Lionel, mais Guimeglio, ça aussi, c'est une belle trempe de champion. Puis c'est bien parce que la moto, c'est un peu un sport dont on ne parle pas très souvent quand même. Hein, si on n'a pas une chaîne
oui, et c'est
câblée ou satellite.
Voilà, la moto, il y a quand même énormément de gens qui la pratiquent. Et nous quand nous quittons les circuits lundi matin, parfois, les motards arrivent pour rouler et arrivent nombreux.
Bah oui.
Donc, c'est une discipline qui demande un peu moins de mise en œuvre quand même que l'automobile.
Oui, au niveau peut-être de la mécanique, mais sur le plan physique, c'est quand même très exigeant. Peut-être beaucoup plus que le sport automobile.
C'est très très difficile sur le plan physique. Très difficile.
Ouais. Et on a vu des motards passer au sport auto, c'est arrivé aussi, hein, qu'il y avait certains grands champions du sport auto.
Michael Wood.
Agostini aussi, je crois.
Oui, Giacomo Agostini, peut-être un peu moins. Mais
avec moins de réussite, lui. Hein.
John Surtees aussi, grand champion à l'époque, était un motard. Et Jean-Pierre Beltoise avait commencé par faire de la moto.
C'est vrai qu'on l'oublie, mais beaucoup ont commencé effectivement par la moto avant de passer donc sur quatre roues. Voilà. Mais écoutez, merci. On va vous souhaiter donc une bonne année. S'il y avait une recommandation, un souhait à faire ou à dire, donc pour finir cette émission, à ceux qui nous écoutent concernant le sport automobile.
Que les gens viennent voir les courses.
Ils sont nombreux au bord des circuits.
Les gens sont de moins en moins nombreux parce que
ça coûte cher pour rentrer aussi.
C'est pas que ça coûte cher, mais on voit des courses à la télévision. Il y a les chaînes câblées, les jeux électroniques.
On se croit dedans.
Mais ça c'est un peu dangereux parfois. Et donc voilà, il y a moins de spectateurs sauf pour les courses très importantes, Le Mans, la Formule 1.
Philippe.
Ouais, c'est un peu le même souhait, parce que c'est vrai qu'il y a très très peu de spectateurs, et moi je me rappelle les premières courses qu'on faisait il y a 4-5 ans dans le nord de la France, où là on avait pas mal de spectateurs, et c'est beaucoup plus sympa, quoi, c'est sûr. Mais il n'y a que dans le Nord. Hein. Après, le reste des circuits, personne, c'est un peu dommage, quoi. Ça enlève un peu du spectacle.
Très bien, merci messieurs, ce sera le mot de la fin. Bonne saison donc 2009. On va écouter la petite pause musicale, le générique donc de Tribune Sport, et ensuite on enchaînera avec Tribune Foot et la section foot de Buc.
Ses doigts longs et rapides couraient sur sa guitare. Ses rives comme des fluides transpercées le brouillard. Puis la lumière dorée du soleil de Négri planait sur la fumée en petites notes agiles. Ces textes étaient précis et bourrés d'humour noir. C'était donc mon ami depuis ce fameux soir. J'étais noir moi aussi, mais pour d'autres raisons. J'avais passé 10 ans à dormir en prison. C'était une drôle d'affaire pleine de coups d'escopette, de transporteurs de fonds et puis de grosses galettes.